France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
C'est le 8e roman de Maria Pourchet, Tressaillir, et dans la première sélection du prix Goncourt, l'autrice sera mon invitée à partir de 13h. Et tout de suite, on critique au menu 2 des romans qui font eux aussi l'événement de cette rentrée littéraire, Kolkhoz d'Emmanuel Carrère et Au grand jamais de Yakuta Alika Vazovic. Vous écoutez les midis de culture et c'est très bon pour ce que vous avez. Et celles qui lisent, les voici, les voilà. Virginie Bloch-Lenné, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière. Bonjour.
Bonjour Marie.
Marie Sorbier, qu'on connaît bien ici, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture dans cette même émission.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux. 5 ans après Yoga, mais surtout 2 ans après la mort de sa mère, Emmanuel Carrère est de retour avec un nouveau roman, Kolkhoz. Et au cœur de cette somme, il y a cette mère, Hélène Carrère-Dancos, historienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, grande spécialiste de la Russie, enterrée avec les honneurs de la nation, une figure à la vie extraordinaire, une figure écrasante, généreuse et aussi terriblement dure par instant. Kolkhoz, c'est ainsi qu'Hélène Carrère-Dancos appelait les moments où ses 3 enfants petits se blottissaient autour d'elle certaines nuits. Petits moments, grandes anecdotes, grandes traversées d'est en ouest du XXe siècle, petitesse humaine parfois. Le fils tresse les fils de l'histoire familiale dans un roman déjà ovationné par la presse. On commence avec un avis rapide de l'une et de l'autre. D'abord, Virginie Bloch-Lenné.
Livre à la fois magistral et délicieux, très romanesque et intimiste. Dans le second volume du Quarto, consacré aux œuvres de Carrère qui vient de sortir, Carrère raconte une plaisanterie à laquelle il pense souvent quand il écrit. Monsieur et Madame Terrieur ont 2 fils. Comment s'appellent-ils ? Alain et Alex. Et il dit qu'il y a des livres où il est très à l'intérieur et qu'il faudrait qu'il soit plus à l'extérieur. Eh bien, Kolkhoz, je trouve qu'il est, il y a un peu d'intérieur, mais il regarde le monde et il est à l'extérieur.
Marie Sorbier.
Alors moi, c'est un roman que j'ai lu en 2 temps et j'ai eu 2 ressentis très différents. Je suis une grande lectrice d'Emmanuel Carrère. J'aime beaucoup ses romans et je les lis avec avidité à chaque fois. Donc j'attendais celui-là avec beaucoup d'impatience. Les 150 premières pages, j'ai été déçue, c'est pas le terme. J'ai été un peu en retrait parce que son jeu à lui, J.E., était lui-même en retrait. On a une première partie qui est un peu plus historique, hein, sur l'histoire de la Géorgie et de la Russie. Donc je lisais ça avec intérêt parce que je n'y connais rien, mais je me demandais où il était. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui se déplie et qui, pour moi, est la plus intéressante, où là, l'intime revient et il dresse un portrait de sa mère et encore plus précisément, je trouve, un portrait de son père qui est magnifique. Ça m'a émue à plein de moments. Je trouve que c'est un roman apaisé et que c'est un roman de deuil heureux.
On va d'abord écouter un extrait de Kolkhoz d'Emmanuel Carrère. Il est lu par Nicolas Berger.
Le 3 octobre 2023, 53 jours après sa mort, un hommage national est rendu à notre mère dans la cour d'honneur des Invalides. Drapeau, uniforme, épaulettes, décoration. L'orchestre de la garde républicaine joue, très bien, l'adagio de la symphonie Jupiter et, pour la touche russe, la sérénade de Tchaïkovski. Nous sommes quelques 200 personnes à patienter dans un carré de chaises en plastique blanc, délimité par des cordons rouges au fond de l'immense cour pavée. Famille, invités de la famille, académiciens, ministres, représentants des 3 armées, terre, air, mer, et des corps constitués, soit les plus hautes institutions de la République. Pendant 1 heure, le soleil nous chauffe agréablement, puis il disparaît derrière le toit, et il fait tout d'un coup très froid. On regrette de ne pas s'être mieux couvert. Notre père, assis dans un fauteuil roulant, est enveloppé dans un plaid. Je ne sais pas ce qu'il comprend exactement de ce qui se déroule. Par moments, il semble oublier qu'il est veuf. À d'autres, cela se rappelle à lui, et il pleure sans bruit, puis retourne à son absence.
Kolkhoz d'Emmanuel Carrère, paru le 28 août dernier aux éditions POL. Virginie Bloch-Lenné, pour vous, il a toutes les qualités, ce livre, c'est-à-dire à la fois intime, à la fois romanesque. Voilà, vraiment, c'est le livre qui combine tout ce que vous attendiez.
Oui, je trouve que c'est un livre. Je suis aussi une grande lectrice et j'aime de Carrère et j'aime ce qu'il fait. Et je trouve que c'est un livre parfait. Comme on dit, il y a des films parfaits. Mm-hmm. Les Demoiselles de Rochefort. Et ben là, c'est un livre parfait, je trouve. Il y a tout. Il y a des pépites. Il y a plein de scènes délicieuses. Il y a des mots d'humour. Il y a beaucoup d'émotions. Et puis, il y a un portrait à la fois de la mère et de la femme. Moi aussi, le début sur la généalogie m'a un peu ennuyée. Mais après, je me suis dit, je l'ai lu deux fois. Et en le relisant, je me suis dit que c'était bien de ne pas arriver directement sur Hélène Carrère d'Encausse, qui est le sujet du livre, même s'il y a aussi en creux un très beau portrait du père. Il y va comme ça, il tourne autour de sa mère et il fait un portrait de la mère très affectueuse qu'elle a été. Il tire la couverture à lui. Hein. C'est Emmanuel Carrère. Il se présente comme des trois. Elle a eu deux filles, un garçon, celui qui était peut-être le préféré. Enfin, c'est ce qu'on peut lire parce qu'il était grand lecteur, il lisait beaucoup. Et il fait aussi un portrait de la femme. Une femme qui, du jour au lendemain, a changé, n'a plus été la même, physiquement, psychiquement. Elle s'est fermée. Elle a envoyé son mari dormir dans le cagibi de l'appartement, dans un réduit. Ils ne se sont plus parlé, ça a duré 50 ans, ils sont restés 50 ans comme ça, elle était assez agressive avec lui, lui il supportait ça, et il y a une raison à ça qui je trouve est assez importante, qui dit aussi quelque chose d'Hélène Carrère d'Encausse, je ne sais pas si on l'a dit Marissa.
Il ne faut peut-être pas tout dévoiler.
Oui. En tout cas, le motif de la réaction d'Hélène Carrère d'Encausse dit quelque chose de l'époque et de cette femme. Et c'est très beau, il est très respectueux des décisions prises par ses parents, de son père de rester, de sa mère de rester, mais de faire subir ça à son père, c'est magnifique.
Et réussir comme ça, Marie Sorbier, à mêler ce que vous disiez, Virginie Bloch-Lenné, l'intime, le romanesque, l'histoire du 20e siècle, quelque part, avec la Russie, réussir à mêler tout ça, intriquer tout ça, là on est dans vraiment de l'art de la littérature achevée, quoi.
Moi, je trouve qu'il a un talent incroyable, Emmanuel Carrère. Je sais qu'il peut agacer et qu'il en agace certains, et je comprends même les raisons de l'agacement, parce qu'il a un jeu et une façon d'être présent dans tous les sujets, hein, qui parle d'un procès ou de sa mère ou de Limonov ou de je ne sais quoi. Mais je trouve qu'il a un talent incroyable pour tisser. C'est-à-dire que, en effet, l'histoire de la Géorgie. Je découvrais complètement en même temps que lui la décrivait.
Parce que sa mère est issue et vient de Géorgie. D'ailleurs, elle s'en moque de la Géorgie. Hein. Oui, c'est la Russie. Elle.
Et d'ailleurs, c'est tout le parti pris du livre. C'est-à-dire que sa famille a pris parti pour la Russie. Et donc, d'ailleurs, ça l'intrigue beaucoup. L'origine du livre, elle est intéressante parce que c'est la guerre en Ukraine. Il est complètement fasciné par la guerre en Ukraine. Ils disent d'ailleurs qu'ils regardent en famille tous les journaux télévisés depuis la déclaration de la guerre. Ils sont complètement fascinés par cette histoire. Et lui se demande pourquoi finalement sa famille a pris parti pour la Russie, alors qu'aujourd'hui on voit un visage de la Russie qui est quand même pas très réjouissant. Et donc ça le taraude beaucoup. Ce que j'ai trouvé très intéressant littérairement parlant dans ce livre-là pour vous répondre, c'est que justement il a tenté de répondre à cette question pourquoi la Russie en étant journaliste. Il a écrit beaucoup d'articles sur ces sujets-là, il était à Moscou quand la guerre en Ukraine a été déclarée, donc il a fait plein de choses là-dessus, il a filmé là-bas, donc il a travaillé journalistiquement sur cette question. Or, le journalisme lui a donné des faits, mais il ne l'a pas apaisé. Il n'a pas répondu à sa question. Et moi, ce que je trouve très beau, et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un roman important, c'est que c'est par la littérature, et donc par le roman, qui va s'approcher d'une réponse de pourquoi ma famille a choisi la Russie et pourquoi ça le taraude, en fait, cette partie russe en lui. Et c'est par le roman, et c'est quand même un peu dingue pour quelqu'un qui est le pape de la non-fiction, de finir par faire ce grand roman qui, puisque c'est un roman, peut être dans la liste des prix Goncourt, puisqu'il pouvait pas avant, puisque c'était de la non-fiction, et que finalement, c'est son roman le plus intime, je crois. C'est son roman qui est le plus proche de lui et dans lequel il pose une vraie question qui, on le sent, le taraude. Je trouve que ce paradoxe, c'est très beau et que ça lui va très bien.
Alors, Marie parlait tout à l'heure d'un roman apaisé et même de deuil lumineux, joyeux, heureux. C'est ça, heureux.
Oui, je trouve que le deuil, c'est quand même un roman de deuil. On a commencé, on vient d'entendre la lecture, hein, on a commencé par cette scène et puis ça finit par très belle scène sur la fin, les derniers jours de la mère. On peut pas non plus raconter parce que vraiment ça se lit avec beaucoup d'émotions. Les dernières pages sont magnifiques. Mais il n'y a pas, c'est pas un roman plombé. Il n'y a pas de la tristesse. Vous parliez, Virginie, tout à l'heure. En effet, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'anecdotes. C'est aussi un roman d'anecdotes. Je l'ai trouvé apaisé et heureux.
Virginie ?
Oui, il n'y a pas... J'ai relu un roman russe, en sachant voilà, que nous allons parler de Kolkhoz, dans un roman russe qui raconte l'histoire, qu'il raconte aussi ici, de son grand-père maternel, né en Géorgie, collaborateur. Il parlait russe, il parlait très bien allemand. Donc pendant la guerre, il a travaillé pour les Allemands. Le père et le fils et la mère n'étaient pas d'accord sur le degré de collaboration de Georges. Il y a dans un roman russe des scènes très dures avec une femme qui s'appelle Sophie, des scènes glauques, des scènes de sexe, des fantasmes, des scènes glauques entre eux. Il n'y a pas du tout ça ici et il est beaucoup plus, c'est vrai, il est ouvert vers l'extérieur, il observe le monde et il est très généreux, hein. Il fait aussi dans ce tissu de voix, il fait parler son oncle, le petit frère d'Hélène Carrère d'Encausse, qui est devenu au fil des ans, à partir de son adolescence à lui, Emmanuel Carrère, son meilleur ami et avec lequel sa mère était brouillée. Donc on entend ce point de vue-là, il ne pensait pas de la même façon que sa sœur, ce Nicolas. Il fait parler son père, il fait parler un ami à lui qui s'appelle Hervé, qu'on retrouve dans plusieurs de ses livres. Donc il fait parler plein de gens, il laisse de la place. Il y a un texte, alors encore, dans le quarto, à la fin du quarto, qui s'appelle Promixité, où il parle d'un livre qu'il a failli écrire sur son quartier, son voisinage, qu'il n'a pas écrit. Et il parle d'un article qui a été fait sur lui vers 2019-2018 dans le New Yorker, où il est décrit comme un type insupportable, un complètement égocentré. Et c'est culotté de dire ça. Et ben, dans Kolkhoz, il n'est pas comme ça. Évidemment qu'il parle de lui, qu'il donne des aperçus de ses défauts, mais en fait, c'est le dire, ça revient en sa faveur. Mais oui, oui, moi, je me plains toujours. Il y a de très belles
pages. Je pars à Royan pendant le confinement.
Oui. Et aussi, il a déjà écrit ça sur l'amoureux qu'il est. Il est un homme qui, du jour au lendemain, peut devenir, pour la femme avec laquelle il vit, un étranger, glacial, insupportable. Mais il laisse vraiment venir les autres et il regarde le monde.
Marie. Oui, apaisé aussi parce que dans Yoga, vous l'avez mentionné, c'était son roman précédent, la dépression prenait une grande part de ce livre, hein, c'était vraiment le cœur du livre, il nous racontait ses séances d'électrochocs, je trouve que c'est une partie du livre qui était terrible. Là, on n'a pas ce Emmanuel Carrère, là on a un Emmanuel Carrère apaisé, je ne sais pas si c'est l'âge
l'amour,
qui vient,
l'amour.
Ou l'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, il a
quelque... Vous êtes tellement romantique.
Bah, peut-être,
on a envie que ça marche.
Je voulais juste revenir sur la figure du père qui pour moi est la partie de bravoure de ce livre-là, parce qu'en effet, c'est un livre sur la mère, il lui fait un grand mausolée comme ça, mais un mausolée à hauteur d'enfant, parce que quand il parle de sa mère, on a l'impression qu'il est toujours adolescent, c'est assez joli, alors que voilà, c'est aujourd'hui un homme plus âgé qu'adolescent. Mais son père, je trouve qu'il fait quelque chose de magnifique et qui m'a touchée vraiment très profondément, c'est-à-dire qu'il lui rend une brillance et un panache que la vie qu'il a eue lui a complètement enlevé, puisque donc il était marié à Hélène Carrère d'Encausse, qui a pris toute la place et toute la lumière et qui l'a complètement écarté de sa vie très vite. Et cet homme, en fait, a été, pour le coup, invisibilisé, lui, dans son coin, relégué dans une petite pièce, dans un lit, une place. Enfin, c'est terrible. Les descriptions qu'il fait de son père sont terribles. Et puis, il représentait des assurances en province, hein, vous savez, un métier comme ça, digne des romans des années 60. Donc, c'est quelqu'un qui s'est pas, on a l'impression qu'il s'est pas totalement épanoui dans une vie sociale. Il devait toujours accompagner sa femme, mais il était vraiment derrière, dans l'ombre. Enfin, c'est terrible, elle lui laissait pas du tout la parole. Mais il le remet en grâce. Et ça, je trouve que
comment remettre en grâce un homme dont on fait un tel portrait?
Il fait quelque chose de très beau. C'est-à-dire qu'il découvre que son père, en fait, toute sa vie durant, ignoré par sa femme, a tenu un arbre généalogique de la famille de sa femme. C'est-à-dire même pas du sien. C'est-à-dire que lui, rejeté par tous, a été amoureux de la famille de sa femme, en fait. Il a épousé un Gotha, oui, exactement. Il a épousé un Ouzbou. Et donc, il passe son temps à envoyer des lettres dans les archives de je ne sais quel endroit, à se déplacer pour aller voir. Et donc, il crée comme ça un monde. Je trouve que cette histoire de la généalogie qu'il se réapproprie et que Carrère lui donne en tant que fils au père, je trouve que c'est un cadeau très beau.
Et il fait aussi, pardon,
dernier mot,
portrait du meilleur ami du père. C'est magnifique. Il ne soupçonnait pas que son père avait pu avoir un meilleur ami qui était un préfet avec lequel il a entretenu une correspondance toute sa vie.
Colcause d'Emmanuel Carrère, paru le 28 août dernier. C'est aux éditions POL.
12h, 13h30. Les midis de culture. Marie Laborie.
Et encore une histoire de mère, c'est le cinquième roman de Yakuta Alikavazovitch, Au grand jamais, qui paraît chez Gallimard, et on y retrouve sa langue élégante, exigeante, un roman qui tourne autour d'une énigme, la disparition de la mère de la narratrice, alors disparition volontaire, décès, on n'en saura pas plus. Difficile d'ailleurs de résumer ce livre, qui n'est pas tout à fait une enquête, ni tout à fait un portrait, mais qui cherche les raisons qui peuvent pousser une femme à arrêter d'écrire, entre autres, Marie Sorbier.
J'ai beaucoup aimé, moi, ce livre. J'ai été collée, en fait, aux propos, collée à la narratrice. Je ne sais pas pourquoi, ce livre m'a complètement enveloppée. Je l'ai trouvé vaporeux et élégant. Et je trouve qu'elle arrive, l'autrice, à déplier des idées de transmission de façon vraiment pas banale. Et je crois que ce que j'ai préféré, et c'est vraiment mon goût de la littérature qui est comme ça, c'est-à-dire que plus on avance, moins on en sait. Et au lieu de découvrir quelque chose, le mystère s'épaissit.
Virginie Bloch-Lenné.
Alors, je suis moins enthousiaste. J'ai été envoûtée par la langue. D'ailleurs, c'est sa patte à Yakuta Alikavazovitch, créer des atmosphères vaporeuses, fantomatiques. Très belle langue. En effet, elle ne dit rien de façon banale. En revanche, sur le fond, j'ai l'impression que je n'ai rien attrapé et que une fois le livre fermé, il n'y a pas de, je n'ai pas de profondeur et pas de d'universalité. Elle dit tellement sa narratrice qu'elle est différente que je cherche ce qu'il y a de commun.
On va écouter un extrait d'Au grand jamais qui nous est lu aujourd'hui par Oriane Delacroix.
Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Mon conjoint, notre fils et moi devions venir le mois suivant. Après l'appel de Sacha, j'ai avancé mon arrivée en précipitation. C'est donc lui, Sacha, qui l'a trouvé. Dans son fauteuil, m'avait-il dit. Et j'ai tout de suite vu le siège en question. En cuir et en acier, au dossier basculant. Un siège très fin, qui pourtant promettait d'offrir, et offrait, le confort d'un massif fauteuil club, choix qui aurait sans doute plu à ma mère, mais pour lequel il n'y aurait guère eu la place dans les trois salons. Elle avait donc opté pour la version allégée, le squelette, ou le fantôme, ou simplement l'idée de l'assise anglaise. Il y en avait une paire, de part et d'autre d'une petite table basse au plateau octogonal en laiton. Les sièges étaient les mêmes, ils avaient été achetés ensemble, mais je savais très bien lequel était le sien, celui près du radiateur. L'autre, devant la fenêtre, était, même si personne ne le disait et que personne depuis longtemps ne s'y asseyait, l'autre était le mien.
C'était un extrait d'Au grand jamais de Yakuta Alikavazovitch qui est aux éditions Gallimard. Marie Sorbier, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez utilisé des mots très charnels pour le décrire, envoûté, enrobé, collé.
Oui, mais j'ai eu une impression, d'ailleurs je l'ai lu très vite, j'étais vraiment dedans et j'ai en effet eu une impression assez charnelle, alors même qu'il y a peu de chair hein, dans ce roman, parce que en effet je comprends très bien ce que dit Virginie, même si on a eu des sensations de lecture différentes, c'est-à-dire que rien n'accroche. J'ai eu cette sensation très bizarre de jamais être sûre de ce que j'ai lu, c'est-à-dire il fallait presque revenir en arrière en disant mais est-ce que j'ai lu ce que j'ai lu, est-ce que j'ai compris ou pas, et puis au bout d'un moment je me suis laissée aller complètement en disant bon c'est pas le sujet en fait, comprendre, c'est comme quand vous disiez c'est difficile à résumer, bah oui parce qu'en fait il n'y a pas d'histoire et l'histoire n'est pas le sujet de ce livre. Une fois qu'on s'est dit ça, je me suis complètement laissée couler, et en effet elle a une langue que je trouve magnifique, qui est ronde, qui est ample, qui est envoûtante, il y a quelque chose de l'ordre du vêtement, d'ailleurs elle fait des très beaux portraits de cette mère, des presque comme des croquis, moi je voyais ce qu'elle était en train de dessiner, cette mère un peu élégante qui s'habille avec un sac Chanel et des affaires de luxe. Alors, alors même qu'ils n'avaient pas du tout les moyens d'avoir ça, mais chaque année, elle essayait de se payer un truc très beau, parce que voilà, c'était ça l'élégance à la française. Je trouve qu'il y a des passages comme ça très justes, et parmi moi, les choses qui m'ont accroché pour le coup dans le fond, c'est vraiment son rapport à la poésie, que je trouve très étonnant. Il faut dire que cette mère... elle en fait une poète avortée, une poète qui a écrit très peu et qui a surtout arrêté d'écrire. C'est un des enjeux du livre. La narratrice, sa fille, se demande pourquoi sa mère a arrêté d'écrire. Là non plus, on ne saura pas. Il y aura des hypothèses, mais c'est pas tout à fait le sujet. Je voulais juste vous lire une petite phrase que j'ai trouvée magnifique sur la poésie. Elle dit « C'est le seul endroit à l'abri ou à l'écart du politique qui imbibe tout, les pensées, les corps et les vêtements que ces corps ont sur le dos. La poésie, c'est le lieu qui n'en est pas vraiment un et qui, pour cette raison, peut être partout sans être nulle part. » Je trouve que c'est une phrase qui résume tout à fait son livre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots comme ça. Ça roule, c'est comme une pierre qui roule, et en même temps, ce qu'elle disait sur la poésie, m'a marqué.
Virginie Bloch-Lenné, manque d'universalité.
Oui, c'est plus un portrait de la narratrice, je trouve, que de la mère. Parce que la mère, c'est un leitmotiv, la mère, elle s'est effacée pour tout donner sa fille, pour que sa fille devienne quelqu'un. Et ce quelqu'un, est exceptionnel, se dépeint comme exceptionnel. À plusieurs reprises, là aussi c'est un leitmotiv, il y a plusieurs. Elle écrit, cette narratrice, qu'il y a un don dans la famille. Elle est une femme que les hommes admirent beaucoup. Elle est une femme qui a fréquenté les très bonnes écoles de la République parce que, comme elle a appris le français toute seule à la maison, ses parents parlaient une langue. De l'Est, elle reste assez floue là-dessus. Elle a appris le français à l'école, elle a été dans de très bonnes écoles. L'excellence...
Des études supérieures, de très haut niveau.
De très haut niveau. Et elle écrit « L'excellence, pour les gens comme moi, c'est un camouflage. Ce que d'autres, alors que d'autres arrivent à être... s'autorisent à être ce qu'ils sont, sans avoir besoin de passer par l'excellence. » Et j'ai pensé encore à Emmanuel Carrère, qui, dans un roman russe, est accablé de reproches de la part de la femme avec laquelle il vit. Ça ne doit pas être facile de vivre avec lui. Elle lui dit « Mais toi, tu es un grand bourgeois, et moi, non. » Et il dit « Mais j'aimerais que Sophie comprenne qu'il y a le malaise social, mais il y a aussi le malaise psychique. » Et je trouve que dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui sont mises... en fait, c'est pas si vaporeux que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la bourgeoisie, sur les riches. Elle écrit, moi, je suis, ma mère n'a jamais briqué sa cuisine, je la voyais faire le ménage, moi, je ne fais pas le ménage, j'ai une femme de ménage, mais elle n'est pas une bourgeoise comme les autres. J'ai trouvé que ça venait presque parce que c'est aussi un thème contemporain très... récurrent, et il est là. Cette héroïne, elle a un peu tout mieux,
en fait.
Un petit peu, oui. Elle a tout mieux que tout le monde, et ça m'a un peu agacée.
Un autre thème très contemporain et que je trouve, moi, elle traite très bien, c'est la femme qui disparaît. On en a quand même beaucoup parlé, des femmes qui disparaissent, avec tous les sens du mot disparaître d'ailleurs. Là, elle clôt pas ce mot, ce que je trouve très beau. Certains peuvent penser qu'elle est morte, d'autres pas. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le sujet. Une femme disparaît, sauf que la littérature, elle permet de faire apparaître les femmes. Et ça, je trouve que c'est quand même très bien articulé. Je trouve ça très beau. Encore une fois, c'est une déclaration d'amour à la littérature. Elle croit au pouvoir de ce qu'elle écrit, elle écrit, la narratrice écrit, la mère est poète, donc on est quand même dans un monde d'écrivains, d'écrivaines, d'autrices, et elle le prouve parce que, en effet, elle fait apparaître cette femme qui a disparu. Ce jeu de passe-passe, je le trouve très beau. Et vous avez pensé à Carrère en le lisant, Virginie, moi j'ai pensé à Peter Handke, qui a cette phrase qui, je trouve, colle parfaitement à ce livre. Il dit « L'obscurité qui restitue ». Et ben, ce livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on part de la lumière et, en fait, on va vers le noir, sauf que cette obscurité dans laquelle elle nous met révèle et fait apparaître des choses. C'est quand même aussi un livre de fantômes, c'est un livre de toutes ces choses qui flottent et qui sont autour de nous. Et pourtant, il y a quelque chose dans cette obscurité-là qu'elle écrit, que je trouve magnifique et qui, en effet, restitue une certaine partie d'une vérité. La vérité, c'est pas la question, mais d'une vérité. Et ça, je trouve qu'en tant que lectrice, moi, ça m'a beaucoup touchée et j'ai peu lu ça ailleurs. Donc, je suis assez emballée par ce livre-là. Je trouve que c'est un grand livre.
Sur cet aspect-là, justement, de l'écriture, vous êtes d'accord, Virginie?
Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'elle fait très attention à la langue. Et rien que pour ça, c'est un livre que j'ouvrirai sans doute de nouveau dans le futur, parce que la langue est très belle. Ça, je suis vraiment d'accord avec Marie. C'est un très bon livre de la rentrée. Ce qui me manque, c'est deux choses. L'autodérision, l'humour.
Ah, l'humour.
Il n'y a pas d'autodérision. Cette narratrice parle beaucoup d'elle sans jamais faire un pas de côté. Et il n'y a pas d'introspection. Elle fréquente, cette narratrice, un groupe de jeunes révolutionnaires au début du 21e siècle. Ils appellent à la décroissance. Voilà. Et elle est très critique envers eux. Elle est assez sévère. Il y a un garçon du groupe qui a l'air d'être un peu le meneur, qui est son amant. Et j'aurais aimé qu'à ce moment-là, elle se demande pourquoi elle les fréquente. Elle dit, il n'y a pas de filles, je suis la seule fille. Pourquoi elle a besoin de les fréquenter? Il y a un autre moment où je trouve que elle tape un peu sur les autres. Un autre moment où je trouve que l'introspection manque, sa mère sans cesse est la femme effacée, la femme qui a disparu. Et il y a un ami qui lui dit, mais enfin, pourquoi tu as tant besoin d'avoir une mère effacée? Et cette phrase, cette question, elle reste là, posée.
Elle est intéressante.
Oui, très. Et elle ne la creuse pas. Et ça, c'était vraiment... C'est intéressant. Pourquoi elle a tant besoin, cette narratrice, que sa mère soit insipide? C'est un peu l'impression que j'ai eue.
C'est une forme de violence faite à la mère, quelque part, qui disparaît elle aussi. Marie Sorbier.
Dernier mot, parce que vous les avez cités, il y a... deux personnages secondaires qui, je trouve, sont très beaux et font du bien, parce qu'en effet, il y a une extériorité à ce moment-là. C'est ce fameux Sacha qui est un cousin, un membre de la famille et qui, lui, semble avoir un avis sur la mère très différent de celui de la narratrice et qui apporte beaucoup d'extériorité. C'est un gardien. Enfin, voilà, il est pas du tout dans ce même monde et il fait du bien. Comme l'ami d'enfance, Thomas, je crois.
Ouais, c'est vraiment un beau personnage.
On y croit d'ailleurs. Qui existe complètement.
Voilà, contrairement à la
mère. Donc, ces personnages secondaires font du bien parce qu'en effet, on se raccroche à quelque chose d'un peu plus incarné.
Oui. Et juste pour comprendre, c'est-à-dire qu'elle va voir d'autres personnes que sa mère a connues.
Elle revisite son enfance, donc elle se souvient d'un garçon qui venait aussi de l'Est, dont la famille avait fait le choix de l'intégration, puisque lui s'appelait Thomas. On comprend que la narratrice n'a pas eu un prénom aussi français. Et elle fait le portrait de ce garçon avec lequel elle avait une enfance explosive. Elle faisait des tours de lotissement en vélo.
Marie, un dernier mot peut-être?
Non, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine de s'y jeter en acceptant que c'est un livre... Il faut larguer les amarres, je dirais, pour pouvoir apprécier. Mais juste en effet pour la langue, ne serait-ce que ça, ça vaut quand même vraiment le coup de s'y plonger.
Au grand jamais de Yakuta Alika Vazovic, paru le 21 août dernier aux éditions Gallimard. Et nous avons également parlé de Kolkhoz, évidemment, qui est dans la première sélection du prix Goncourt, le dernier roman d'Emmanuel Carrère, qui est paru aux éditions POL. Merci beaucoup Virginie Bloch-Lenné, Marie Sorbier, d'être venue dans les Midi de Culture parler de ces deux romans. Évidemment, vous qui nous écoutez, vous retrouvez toutes les références sur la page des Midi de Culture. Et maintenant, c'est à vous de vous faire une idée.